France Info.
Et à la une de ce 26 novembre, Chine, devant la justice après le scandale des poupées sexuelles, le site de vente chinois risque 3 mois de blocage en France. À la une également ce matin, le président ukrainien qui se dit prêt à aller de l'avant avec le plan de paix américain. Le Sénat qui retoque la suspension de la réforme des retraites. Jordan Bardella enfariné lors d'un déplacement en Haute-Saône. Et puis le soulagement pour l'OM qui bat Newcastle 2-1 en Ligue des Champions. Si vous êtes client de Shein, le site sera peut-être inaccessible dans les prochaines semaines. La plateforme est convoquée ce matin devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle est assignée par l'État après l'affaire des poupées sexuelles à l'image d'enfants et des armes que l'on y trouvait en vente. Et cette plateforme risque une suspension. Le gouvernement réclame un blocage total pour au moins 3 mois. Une affaire qui avait été amplifiée, rappelez-vous, par ce partenariat historique entre Shein et le BHV à Paris. C'est là que le géant chinois a ouvert sa toute première boutique physique il y a 3 semaines. Qu'en est-il désormais, Alexis Morel? Vous y êtes retourné au BHV où le succès s'est tari.
La direction revendique un succès, une affluence considérable. 150 000 visiteurs venus au BHV spécifiquement pour Shein durant les 15 premiers jours. Mais pour combien d'achats vraiment réalisés? Lors de notre visite hier, peu de passages en caisse. Et côté client, toujours les mêmes critiques. Corinne et Bruno arrivent d'Orléans.
Alors hyper déçus, il y a très peu de choix. Et les prix, c'est 3 fois plus cher que le site en ligne. Donc je continuerai à commander sur Internet. Il n'y a presque personne et personne n'achète.
On y a été un quart d'heure, on n'a pas vu un client ou une cliente avec des vêtements pour passer en caisse ou quoi que ce soit.
L'arrivée de Shein au BHV était présentée comme un moyen de relancer l'ensemble du magasin. Mais tout l'inverse se produit, selon une représentante syndicale qui a souhaité rester anonyme.
Dès qu'il y a eu Shein, notre clientèle, elle a beaucoup diminué.
Et parallèlement, les départs de grandes marques se sont subitement accéléré. Dans le magasin, des espaces entiers sont désormais complètement vides.
C'est la débandade, quoi. Enfin, là, toutes les grandes marques qui amènent du trafic et du chiffre d'affaires sont en train de partir. Lundi, c'est Aesop, Lancôme et Yves Saint Laurent. Là, c'est Givenchy, Gérard Darrel, enfin...
Des fournisseurs qui se plaignent aussi d'impayés récurrents. Ça, ce n'est pas nouveau. La direction leur promet que ça va rapidement s'arranger.
Un reportage d'Alexis Morel pour France Info. 4 nouvelles personnes interpellées après le cambriolage du Louvre. Parmi elles, un homme soupçonné d'être le 4e membre encore manquant du commando qui a dérobé les bijoux de la couronne dans la galerie Apollon. Il est suspecté d'avoir été le guetteur dans la rue. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 4 jours dans cette affaire. Les bijoux, eux, restent introuvables. Est-on proche d'un accord pour l'Ukraine? Volodymyr Zelensky, nous le disions, se dit prêt à aller de l'avant avec la proposition américaine. Le président Trump annonce que son émissaire personnel va d'ailleurs rencontrer Vladimir Poutine, le président russe. Et face à cela, face à ces discussions diplomatiques, quelle place pour les Européens? Emmanuel Macron réunissait hier en visio les alliés de Kiev, Nathanaël Charbonnier, et le président tente de maintenir la pression face à la Russie.
L'offensive diplomatique de Donald Trump semble porter ses fruits. Depuis le week-end dernier, on ne parle plus que de ce fameux plan de paix proposé par les USA, en partie accepté par les Ukrainiens et regardé de près par les Européens, France et Angleterre en tête. L'objectif en tout cas pour le président français est de faire évoluer ce plan américain tout en maintenant la pression. Il s'agit notamment de montrer au reste du monde que le principal obstacle à la paix en Ukraine vient des Russes et pas des Occidentaux. Emmanuel Macron.
Je veux ici redire notre soutien et nos condoléances au peuple ukrainien. Mais alors que la Russie faisait croire une fois encore qu'elle était prête à la paix, les dernières heures ont été marquées par à nouveau des frappes contre des infrastructures civiles, en particulier énergétiques, et contre des civils ukrainiens. Et donc, sur le terrain, la réalité est tout le contraire d'une volonté de paix. Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu.
Et sur le terrain, justement, l'armée russe, qui contrôle près d'un cinquième du territoire ukrainien, continue sa lente progression, revendiquant ces derniers jours la prise de plusieurs villages.
Nathanaël Charbonnier. Le projet de budget de la Sécu 2026 est mis au vote. Au Sénat, aujourd'hui, la Haute Assemblée, dominée par la droite, qui hier a retoqué la suspension de la réforme des retraites, contrairement à l'Assemblée nationale qui l'avait validée. Il faudra donc trouver un compromis entre les deux chambres lors d'une commission mixte paritaire qui a lieu ce soir. Pour le gouvernement, il va falloir cette fois trouver un chemin pour faire adopter les textes budgétaires d'ici la fin de l'année. Ça s'annonce très compliqué. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, affirme qu'il y a une majorité pour faire voter ce budget dans les temps. Mais quelle majorité? Audrey Tison, selon plusieurs membres de l'exécutif, il y a un plan.
Il y a bien un plan, assure un poids lourd du gouvernement. Pour le projet de loi de la Sécu, on s'est tourné vers le PS, le compromis est en cours. Mais pour l'autre texte, le budget de l'État, le pivot sera la droite, nous explique-t-il. Le gouvernement imagine faire le plein des voix du bloc central ainsi que des Républicains et obtenir l'abstention des socialistes, peut-être aussi des écologistes et des communistes. Ça n'est pas gagné pour le moment. C'est pour obtenir la mansuétude de la gauche et l'enthousiasme de la droite que le Premier ministre a proposé de débattre séparément des sujets régaliens, dépenses militaires et de sécurité intérieure. La loi narcotrafique a été co-construite avec le PS, nous rappelle-t-on. Mais aussi trois sujets liés à la souveraineté. Une conseillère de l'exécutif résume, l'idée c'est de montrer qu'il y a des majorités sur ces sujets-là et de s'éloigner de l'image d'un budget soi-disant horrible.
Audrey Tison du service politique de France Info. Le président du Rassemblement National pris à partie hier à Vesoul, Jordan Bardella, a été fariné en fin d'après-midi. Un jeune homme a été placé en garde à vue pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, car Jordan Bardella est un élu au Parlement européen. Un incident alors qu'il déambulait dans les allées de la foire de la Sainte-Catherine, Paul Barcelone.
Jordan Bardella déambule au niveau d'un stand de la coordination rurale, un syndicat agricole, quand il reçoit de la farine en plein visage. Le président du RN est alors immédiatement exfiltré par son service de sécurité. Quelques minutes plus tard, à l'abri dans un hôtel où il participe à une séance de dédicace de son dernier livre, Jordan Bardella relativise, interrogé par Ici Besançon, ex-France Bleu.
Oui, alors c'est un non-événement. Un gamin de 16 ans, probablement manque d'éducation des parents, qui a jeté de la farine sur les agriculteurs et sur moi-même. Pendant que je discutais avec des agriculteurs, bon, Jean Moulin a fait mieux par le passé. Hein.
Ce jeune homme de 17 ans a été placé en garde à vue, le RN entend porter plainte. Dans la soirée, Jordan Bardella a publié plusieurs vidéos sur ses réseaux sociaux. Il y enchaîne bain de foule et selfie. La jeunesse de France a soif d'engagement. Votre confiance est un bien précieux, écrit-il. Cet incident intervient quelques heures après la publication d'un sondage de l'Institut Odoxa qui fait du jeune patron du RN le grand favori pour la prochaine présidentielle, en le plaçant pour la toute première fois en tête des intentions de vote au second tour. Et ce, quel que soit son adversaire.
Paul Barcelone, l'OM peut encore rêver d'un titre en Ligue des Champions. Les Marseillais se sont imposés hier soir au stade Vélodrome contre Newcastle. 2-1, le club remonte donc dans le classement, dans la zone des barragistes. Et c'est Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme du match, Nicolas Perronnet, lui qui a marqué un doublé pour les Olympiens.
L'affaire était pourtant mal embarquée, mais en 4 minutes, montre en main, juste après la mi-temps, de retour des vestiaires. À lui tout seul, il a fait chavirer le Vélodrome. 4 minutes et 2 buts signés Aubameyang qui change tout pour Marseille, désormais relancé dans sa quête européenne. Pour personne, hier soir, l'attaquant gabonais ne faisait ses 36 ans, à commencer par son coéquipier Timothy Weah.
On dirait un joueur qui a 19 ans quand il joue. C'est un joueur de très haut niveau. Franchement, c'est un kiff de jouer avec lui.
Le vieux briscard a frappé au bon moment quand l'OM, plus que jamais, avait besoin de lui. Car une défaite aurait très sérieusement compromis les ambitions marseillaises dans la compétition. La marque des grands joueurs reconnaît, admiratif, le défenseur Benjamin Pavard.
Il n'y a rien à prouver à personne. Sa carrière, elle parle pour lui. C'est un grand buteur, c'est aussi une super personne et il mérite parce que c'est un bosseur au quotidien. Je suis très content pour lui.
Plus de 20 ans après, on parle encore à Marseille du doublé d'un certain Didier Drogba face à Newcastle en 2004. Celui d'Aubameyang hier soir devrait lui aussi créer des souvenirs pour un bon moment.
Et ce soir à suivre d'autres matchs de clubs de Ligue 1, le PSG au Parc des Princes contre Tottenham et Monaco qui est à Chypre pour affronter Paphos. Et puis, il était la voix d'un tube des années 80. Bébert du groupe Les Forbans qui vient de nous quitter, Albert Kassaby de son vrai nom avait 63 ans, chante, c'était évidemment ce grand tube, le titre d'un immense succès aux 2 millions d'exemplaires vendus. Ça vous parle, j'ai l'impression, hein, Christine Peña, ça vous fait
si
danser.
Je regardais si vous aviez mis vos baskets.
Non, mais j'ai ma banane. En tout cas, Christine, aujourd'hui, il faut plutôt mettre les moon boots. C'est encore un peu de neige en montagne.
Encore un peu de neige, effectivement, en montagne et notamment sur les Alpes. Et les quantités sont quand même remarquables hein, pour cette fin novembre. On a un petit saupoudrage, mais alors sur quasiment tous les massifs, même sur les Pyrénées, plutôt la partie orientale. orientale des Pyrénées qui restera dans les nuages. L'est reste dans les nuages alors qu'à l'ouest, les éclaircies sont de retour. On a une nouvelle petite descente d'air froid là. Ce matin, on a des gelées déjà à l'ouest, là où le ciel est dégagé. Petites gelées, hein, elles ne sont pas très fortes. Mmh. Cet après-midi, on ira à pas plus de 5 degrés à Strasbourg, 6 à Dijon et Clermont-Ferrand, 7 à Lille, 8 à Paris, 10 pour Rennes, un petit 11 pour Bordeaux et Marseille. Et c'est l'heure de prendre des nouvelles de Toulon. Eh bien, ah. Il fera 16 degrés sous le soleil à Toulon cet après-midi.
Pourquoi vous parlez autant de Toulon,
Christine Peña ? Je ne sais pas,
Peña.
Tiens.
Ah, vous avez peut-être vu ma carte d'identité.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Christine Peña, 5h10.